VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. En RDC, des policiers et des militaires congolais ont réprimé aujourd'hui à coups de gaz lacrymogène et des tirs de sommation une manifestation à Beni au dernier jour du deuil national en mémoire de plusieurs dizaines de civils tués par des rebelles ougandais le week-end dernier. Des drapeaux du parti présidentiel ont été brûlés, tout comme au grand marché de Beni, une effigie du président congolais Joseph Kabila. Le territoire de Beni et ses environs sont en proie à une série de massacres, principalement à l'arme blanche, ayant causé la mort de plus de 650 personnes depuis octobre 2014. À 10 jours de l'élection présidentielle, le chef de l'État sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a dénoncé des appels à la discorde et à la violence dans un discours prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée aujourd'hui. M. Bongo est candidat à un nouveau septennat face à 11 autres candidats, dont un seul qui semble en mesure de l'inquiéter, Jean Ping. L'ex-président de la Commission de l'Union africaine a bénéficié hier du désistement de 2 autres poids lourds. Quelques 628 000 électeurs sont appelés à retirer leur carte d'ici le scrutin à un tour prévu le 27 août prochain. En Afrique du Sud, l'ANC tente de recoller les morceaux après sa défaite sans précédent aux élections du 3 août. Le parti de Nelson Mandela a perdu la majorité dans des centres urbains clés, cédant ainsi du terrain à l'opposition. Pour l'analyste sud-africain André Thomas Aosen, le parti du président Zuma paye le prix de la corruption généralisée.
Il y a eu trop de corruption et trop de pertes de bons services. Il y a peut-être 2/3 des municipalités qui sont dans un état technique de faillite à cause de la corruption. Et en fonction de ça, il n'y a plus de livraison fiable de l'eau potable, de l'électricité, de sécurité, de services de santé et même de l'éducation. Alors pour Zuma, de refaire cette discipline dans son administration, c'est une grande tâche. Il lui reste à peine un an, peut-être un an et demi, jusqu'aux prochaines élections générales. Et un peu la guerre va continuer, parce qu'il y aura des gens plus jeunes dans le parti qui trouvent qu'il serait mieux qu'un nouveau candidat soit trouvé plutôt bientôt.
André Thomas Aosen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Le MPLA au pouvoir en Angola a débuté aujourd'hui un congrès de 4 jours au cours duquel il va réélire à sa tête le chef de l'État José Eduardo Santos au pouvoir depuis 1979 qui vise une réélection à la présidentielle de 2017. Le congrès s'est ouvert ce matin dans la capitale angolaise, Luanda, en présence de Dos Santos lui-même, vêtu d'une chemise rouge aux couleurs du mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, a constaté un journaliste de l'AFP. L'issue du vote qui doit avoir lieu vendredi ou samedi ne fait pas de doute, José Eduardo Santos étant l'unique candidat à la tête du parti.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, un jeune homme a été tué, une dizaine d'autres personnes blessées mardi à Conakry après une grande manifestation de partisans de l'opposition. La manifestation a mobilisé 700 000 personnes selon le chef de l'opposition, Sélou Dalène Diallo, moins de 500 000 personnes selon les forces de l'ordre. Notre correspondant Zakaria Camara était à la manifestation où il a recueilli les propos de certains protestataires.
Mal gouvernance, les gens sont faits.
Ibrahima est vendeur ambulant. Il fait partie des milliers d'opposants au régime d'Alpha Condé à se rassembler devant le stade 28 septembre de Conakry. Aliou est à la recherche du premier emploi.
Il y a la galère, tout le monde souffre. À chaque fois, on ne fait que de nous promettre. Chaque étudiant a une tablette. Maintenant, on ne sait pas où on va. Et pour cela, on est venu ici pour manifester notre râle de bois parce qu'on en a marre.
Amadou, diplômé sans emploi, semble avoir une position moins dure.
6 ans, c'est trop. La solution, il faut que le président accepte vraiment. 2020, c'est le pouvoir guinéen. Demandons l'amour de Dieu, respecter vraiment la constitution guinéenne.
C'est le chef de file de l'opposition qui prononce le dernier discours. Sélou Dalène Diallo écrène ce qu'il appelle les promesses non tenues du président Condé. Il a cité, entre autres, l'emploi des jeunes. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Quelques réactions donc de manifestants anti-gouvernementaux guinéens recueillis donc par Zakaria Camara. Et au Mali, pas de compromis entre la CEMA et la plateforme suite aux récentes tensions à Kidal, réunies à Bamako depuis vendredi. Les responsables des deux mouvements n'ont pas pu harmoniser leur position pour un cessez-le-feu. Les deux groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont violemment affrontés ces dernières semaines à Kidal autour de divergences sur la gestion administrative et militaire de Kidal. Kassim Traoré.
Le haut représentant du chef de l'État malien pour la mise en œuvre de l'accord, le contrôleur général Mamadou Diawara et le patron de l'aménagement Anadif ont reçu les groupes armés séparément. Tous les responsables de la CEMA, une forte délégation avec des responsables politiques et militaires. Puis les Gacha qui étaient très en colère parce qu'ils ont été mis hors de la ville de Kidal. Les Gacha posent comme préalable le retour de ces troupes dans la ville de Kidal. Cela pourra, selon la délégation des Gacha, faciliter le retour au calme. Ils exigent aussi une gestion paritaire de la ville avec la CEMA. Cette proposition des Gacha est rejetée en bloc par la CEMA, qui veut gérer Kidal en maître absolu. À défaut de sa première proposition, les Gacha a demandé de revenir à la situation d'avant les événements des 20 et 21 juillet 2016, où il était dans la ville avec la CEMA, avant d'y être chassé par l'aménagement et Barkhane, suite au combat meurtrier. En plus de son retour à Kidal, les Gacha veulent aussi avoir le même nombre de combattants dans la ville que la CEMA, une proposition qui a rendu les négociations encore plus difficiles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Une victoire des forces du gouvernement d'union libyen contre le groupe État islamique Assert ne va pas écarter d'un coup la menace djihadiste en Libye, c'est ce qu'estiment des analystes. Ils constatent que la légitimité du gouvernement d'union reste contestée par un exécutif parallèle dans l'est du pays. En plus, les services publics sont défaillants, pénurie de liquidités, mais surtout insécurité ont fini par désabuser les Libyens qui l'avaient soutenu au départ. Une victoire assise devrait donc lui permettre d'obtenir davantage de soutien international pour redresser l'économie, mais la menace de l'État islamique ne disparaîtra pas d'un coup.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Turquie va libérer 38 000 prisonniers condamnés pour des faits s'étant produits avant le 1er juillet, donc avant le putsch raté de la mi-juillet, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Justice, Bekir Bozdag, apparemment pour désengorger les prisons turques. La mesure exclut de fait toute personne incarcérée pour son implication dans le coup d'État raté du 15 juillet qu'Ankara a accusé l'ex-imam Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis, d'avoir ourdi. Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a appelé hier les Afro-Américains à le soutenir, accusant les démocrates de les avoir trahis. Les Noirs votent traditionnellement plus volontiers pour les démocrates et Hillary Clinton a une bonne avance sur son adversaire républicain dans la course à la présidentielle du 8 novembre. À la traîne dans les sondages, il semble que Donald Trump, qui s'est appuyé jusqu'ici sur un électorat blanc, prend désormais un tournant de sa campagne avec cette tentative de séduction des minorités. Et la candidate démocrate à la Maison-Blanche a nommé une équipe de transition pour succéder à Barack Obama. Hillary Clinton a rendu public hier la composition de cette équipe chargée de préparer la passation de pouvoir avec le président sortant en cas de victoire en novembre, Jacques Aristide.
C'est Ken Salazar, ancien secrétaire à l'intérieur de Barack Obama, qui a été nommé président de cette équipe de transition. Quand Hillary Clinton entrera dans l'histoire comme première femme présidente du pays, dit-il, nous voulons avoir une organisation clé en main pour qu'elle puisse être opérationnelle dès le premier jour. La forme juridique de cette structure est une association à but non lucratif. Parmi les autres responsables figurent Tom Donilon, ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, et Neera Tanden, une proche d'Hillary Clinton qui dirige le centre de réflexion Center for American Progress, considéré comme la boîte à idées des démocrates. De son côté, Donald Trump a nommé en mai dernier le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, comme président de son équipe de transition.
Et l'utilisation par la Russie d'une base iranienne pour des raids aériens en Syrie est malheureuse, mais pas surprenante, a réagi le département d'État américain mardi. Washington est en train d'évaluer l'étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran, a déclaré Mark Turner, le porte-parole du département d'État. Selon lui, le recours de Moscou aux bases iraniennes n'empêchera pas nécessairement les États-Unis de parvenir à un accord avec la Russie pour combattre le groupe État islamique en Syrie. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francis. Jean-Roger Billon à ce micro. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.